Cube Radio. Alexandre Moranville-Ouellet.
Cube Radio.
Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet.
Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Autre grosse journée aujourd'hui en actualité. Le suivi, évidemment, hier de la grande nouvelle du jour, celle de ce jeune homme qui aurait été abattu par les policiers. Le jeune homme de 26 ans, Abdullah Shaikh, qui était à ce moment-là recherché pour avoir présumément abattu trois personnes. Ces trois personnes abattues à Montréal et à Laval, vraisemblablement complètement au hasard d'une balle à bout portant. Une histoire sordide qui prend, au fur et à mesure où on a de plus en plus de détails de l'enquête des policiers, qui prend de plus en plus de tournures assez étranges, parfois même troublantes. Et là, on apprend que cet homme-là aurait été remis en liberté par un tribunal, et ce, même s'il représentait un risque important pour la sécurité du public. Il cumulait des séjours à l'hôpital psychiatrique. Les médecins tentaient de contrôler, entre autres, sa schizophrénie. Il avait des traits de personnalité antisociales et narcissiques. On dit qu'il était en déni total de sa maladie. Il avait un historique de non-observance au traitement, entre autres. Mais malgré tout, en mars dernier, on a jugé qu'une libération sous condition, malgré le danger qu'il posait, était approprié. Et malheureusement, on en voit aujourd'hui les conséquences. Trois personnes qui ont perdu la vie vraisemblablement suite aux actions de ce jeune homme-là. Ce qui fait nous poser également une autre question. Il avait une interdiction de posséder des armes et il s'est ramassé, selon toute vraisemblance, avec une arme à feu. Là. Une arme à feu qu'il a utilisée pour tuer trois personnes. C'est une chose que des gens du crime organisé, des gens des gangs de rue, par exemple, puissent mettre la main sur des armes illégalement importées ici au Canada, au Québec, qui se ramassent avec dans les rues de Montréal. Ça, c'est une chose, c'est un fléau, il faut l'endiguer, mais c'est un peu plus compréhensible qu'un jeune homme comme ça, qui n'a pas vraiment encore d'historique judiciaire, là, il y avait un procès contre lui, là, mais outre ça, pas quelqu'un qui est affilié aux gangs de rue, selon ce qu'on comprend, pas quelqu'un qui est affilié à la mafia, au motard, au crime organisé, il se ramasse avec une arme à feu tout de même. Ça reste troublant. Il faudra voir la lumière qui sera faite sur cette situation. Sinon, hier, une nouvelle qui m'intéressait particulièrement, qui se déroulait aux États-Unis. Vous avez peut-être entendu parler cette semaine du procès fait à Alex Jones, ce complotiste d'extrême droite extrêmement connu aux États-Unis, qui, grâce à sa plateforme InfoWars, est connu par des milliers, si ce n'est pas des millions de personnes. Eh bien, il a été condamné hier à verser plus de 4 millions de dollars, 4,1 pour être précis, aux parents d'un garçon tué dans la pire tuerie jamais survenue dans une école américaine, la tuerie de Sandy Hook. On rappellera Alex Jones, entre autres, là, parce qu'il en a dit des niaiseries, des conneries sur sa plateforme. Il a entre autres dit que la tuerie de Sandy Hook de 2012, eh bien, c'était ce qu'on appelle une opération false flag, une opération organisée dans laquelle il n'y avait pas vraiment eu de mort. Les enfants qui étaient décédés, vraisemblablement, c'était des acteurs, selon lui, et autres. Ça avait conduit à un harcèlement généralisé des parents dans cette histoire-là. Imaginez, vous êtes un parent, vous avez perdu votre enfant dans une tuerie, dans une école, et on vous harcèle en vous disant « Votre enfant est un acteur, vous êtes un salaud ». Bref, enfin, justice est rendue et la meilleure des choses dans tout ça, c'est que c'est pas la fin pour Alex Jones. Il pourrait y avoir beaucoup d'autres poursuites, beaucoup d'autres procédures judiciaires qui pourraient lui coûter très cher, éventuellement même peut-être le priver de sa plateforme InfoWars. C'est une saga judiciaire qui vaut vraiment la peine. Le procès est extrêmement rocambolesque dans cette histoire-là. Ça vaut la peine de le suivre. Sinon, une nouvelle qui est tombée hier, une autre tuile qui s'abat sur la tête des automobilistes de Montréal. Je peux entendre mon collègue Benoît Dutrisac, malgré le fait qu'il soit en vacances, je peux l'entendre grincer des dents d'ici, depuis la rive sud, puisque, mais on parle de Montréal, mais on parle aussi de la rive sud. Le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine va être en travaux jusqu'à l'automne 2025. On va devoir fermer trois voies. Et donc, jusqu'en 2025, pendant trois ans, là, de novembre jusque-là, eh bien, ça va être encore plus le bordel pour prendre le pont-tunnel. Et ça va s'ajouter quand même là au ralentissement généralisé qu'on vit souvent sur les ponts de la métropole. Pour en parler avec nous, Chantal Rouleau est la ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole, justement, et de la région de Montréal. Madame Rouleau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Moranville-Ouellet. Et permettez-moi, avant de commencer, d'offrir toutes mes condoléances, très sincères, sympathies aux proches et aux familles des victimes innocentes là, cet événement là, très, très violent qu'on a connu cette semaine, c'est
inacceptable. À ce moment-là, Mme Rouleau, vous m'ouvrez la porte. Commençons par parler de ces événements-là, puisque ça concerne la métropole. On reviendra sur le pont-tunnel. C'est vrai que ça prend préséance. Là, on apprend d'autres détails ce matin, j'en parlais quelques instants, sur ce suspect abattu, là, Abdullah Chaïk, 26 ans, un historique de santé mentale assez troublant. C'est une chose que des criminels, des membres du crime organisé, des gangs de rue se retrouvent avec des armes à feu entre les mains. Là évidemment, l'enquête n'est pas complétée du tout. En ce moment, il va y avoir d'autres détails, mais est-ce que ça vous trouble, vous, de savoir qu'un jeune homme comme ça, qui a une historique de santé mentale, non affilié au crime organisé, puisse se retrouver avec une arme à feu dans les mains?
Bien, que des armes à feu se promènent dans la région de Montréal, ça, c'est très, très troublant. Puis oui, effectivement, que ce jeune homme se soit retrouvé avec une arme, puis c'est justement là-dessus qu'on travaille très fort avec l'opération Centaure, avec des investissements là, très, très importants, 90 millions à Centaure pour la police, pour bien les équiper, pour qu'ils puissent faire les recherches adéquates avec les bons outils pour détecter ces armes-là, travailler avec les organismes communautaires aussi en prévention pour que les jeunes ne soient pas tentés d'avoir des armes à feu entre les mains, mais plutôt aller vers la culture, les arts, le sport, l'éducation. Qu'ils puissent se développer autrement qu'en pensant avoir un fusil entre les mains. Et puis, j'ai investi aussi par le fonds de la métropole, le fonds d'investissement de la métropole, 1,6 million dans un fonds de recherche pour justement travailler sur la prévention de la violence armée à Montréal. Donc, on allie aussi la science à tout ça. Donc, la science, les policiers, les organismes communautaires, donc prévention, répression et science pour contrer ce fléau qu'on connaît à l'heure actuelle, puis qui, selon toute vraisemblance, là, est issu de... C'est un résultat là, de la pandémie. On travaille là-dessus très, très, très fort pour faire en sorte que notre métropole demeure une métropole très sécuritaire.
On vous entend sur ces mesures-là. Vous voulez que la métropole demeure sécuritaire, mais en attendant que ces mesures portent fruit, là, parce qu'on s'entend, ça n'arrivera pas en criant ciseaux. Le sentiment de sécurité à Montréal se dégrade. C'était une chose des gangs de rue, c'est une chose des balles perdues, c'est une chose des victimes collatérales. Mais là, on a vu des victimes complètement aléatoires dans un événement comme celui-ci. Est-ce que dans l'immédiat, il y a des éléments qui peuvent rassurer les Montréalais, les Montréalaises?
Ben oui, parce que en outillant mieux les policiers qui ont des méthodes, là, ils peuvent raffiner leurs méthodes d'enquête. Il y a déjà 400 armes qui ont été enlevées. Il y a autant et plus d'arrestations qui ont été faites de malfaiteurs. Il y a un travail qui se fait au niveau des frontières aussi, en collaboration avec la police des États-Unis, avec l'Ontario. Il y a un travail qui se fait avec les policiers des communautés autochtones où il y a certains passages d'armes qui potentiels, disons. Alors, il y a un travail énorme qui se fait à ce niveau-là et qui donne des résultats aujourd'hui. Évidemment, des événements comme cette semaine, c'est troublant, c'est choquant, mais on continue à travailler. Puis, par exemple, ben ce jeune homme qui a commis ces meurtres a été identifié quand même, bon, après, mais quand même rapidement. Et ben, on connaît la suite des choses.
Ouais. Si on revient sur le dossier, là, l'autre dossier qui concerne la région de Montréal qui a été annoncé hier, le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, je le disais tantôt, trois voies fermées jusqu'en 2025. C'était déjà assez compliqué, merci, prendre le pont-tunnel. Il y avait du trafic presque à toute heure du jour, là, souvent, sur ces voies-là. Comment vous allez faire pour vous assurer que ça dégénère pas complètement la situation lorsqu'il va y avoir la moitié de ces voies-là pendant trois ans de temps?
Ouais, bon, évidemment, c'est pas de gaieté de cœur qu'on a annoncé le prolongement là, des travaux du tunnel jusqu'en 2025. Puis, ça va coûter plus cher, ça va durer plus longtemps. On a vu qu'il y avait certaines dégradations là, plus importantes que ce qui avait été estimé à l'origine. Donc, on est obligé de le faire. On va maintenir, évidemment, la circulation pour les camionneurs, pour les camions. C'est important pour l'approvisionnement, c'est important pour l'économie métropolitaine, montréalaise. Alors, il y aura moins de voitures. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait moins de voitures dans le tunnel. On met en place des mesures de mitigation par des voies réservées. Déjà depuis la fin de l'année 2021, il y a des voies réservées qui ont été construites exprès pour ça, faciliter l'accès au métro. On est en train de travailler là avec les sociétés de transport et la RTM pour avoir un plan très costaud de transport collectif et que ce soit attractif, parce que c'est ça notre avenir, hein, c'est le transport collectif. Et on va mettre en place toutes les mesures qui sont nécessaires. Il y a une navette fluviale entre la rive sud et Montréal. Ouais. On va prolonger la durée de cette navette. Donc, on va faciliter aussi l'accès au métro de Longueuil. On va augmenter les lignes partant du métro Radisson. Fait qu'on va tout ça, certaines des mesures sont déjà en place. Pas très populaire aujourd'hui, cependant, parce que les gens veulent encore prendre leur voiture, mais par une bonne communication avec Mobilité Montréal, avec les maires et mairesses que j'ai rencontrés, avec mon collègue François Bonnardel hier matin, on va travailler très fort avec les maires et mairesses, des rencontres régulières, presque quotidiennes, pour s'assurer d'avoir une vigie très serrée de la situation, puis pouvoir ajuster rapidement. On va investir et on va s'assurer que on mette en place là, les mesures nécessaires et que les sociétés de transport aient tous les outils qu'il faut pour offrir un bon transport collectif aux citoyens.
Oui, le bon transport collectif, c'est sûr, mais il devra passer quand même par le pont. C'est ce que je comprends. C'est rare, je vois des autobus, en fait, dans le pont tunnel. Là, vous me direz, là, c'est vrai. D'un autre côté...
Oui, mais il y a aussi le REM qui va être en fonction prochainement.
Il va être en fonction prochainement. Est-ce qu'on a une date pour la mise en fonction du REM?
Ben là, je veux pas m'avancer sur la date. Je vais laisser le promoteur CDPQ annoncer sa date officielle. Mais on sait que c'est dans les prochains mois.
Est-ce que ça va survenir, excusez-moi, est-ce que vous savez si ça va survenir avant que ces travaux commencent dans le pont tunnel, donc avant novembre?
Je peux pas vous dire si il y a déjà là actuellement des tests qui se font, ça fonctionne très bien. On prévoit que ça se fasse à l'automne, mais je peux pas vous donner une date précise là. Parce que là, à l'heure actuelle, notre objectif, aussitôt qu'on a su cette nouvelle, parce qu'on l'a su il n'y a pas très longtemps, c'est au début de l'été, on nous a informé, il y a un gros problème. Alors là, on a pris toutes les informations nécessaires, on a regardé tous les scénarios qui étaient possibles, et la première décision qu'on a prise, François Bonnardel et moi, c'est de le dire tout de suite. On voulait pas attendre là, arriver au mois de novembre, puis il faut prolonger encore. C'est maintenant. On le dit, pour mieux se préparer. Alors là, aujourd'hui, à partir de maintenant, et puis ça a commencé hier au lendemain du Conseil des ministres, parce qu'il fallait que ça passe par le Conseil des ministres pour qu'on puisse avancer dans cette décision-là. Alors, à partir de ça, on a discuté avec les maires et mairesse, on discute avec les sociétés de transport, on discute avec toutes les parties prenantes, avec les associations de camionneurs, avec la sécurité, avec tous ceux qui ont un impact sur ces travaux et sur la mobilité pour s'assurer de mettre en place les meilleures solutions possibles en concertation.
Pour les transports en commun, en situation de pénurie de main-d'œuvre comme ça, puis ça fait c'est une nouvelle récurrente, là, par exemple au niveau de la RTL, le réseau de transport de Longueuil, qui va si je ne m'abuse, de desservir ces régions-là. Là, moi, je me trompe, là, au niveau de l'est de la rive sud de Montréal, parce que c'est surtout cette région-là qui était desservie par le pont-tunnel. On parle de Boucherville, Sainte-Julie, Varennes, Longueuil, Verchères et autres. Est-ce que du côté de la RTL, on va réussir à augmenter cette offre-là véritablement? Parce que je comprends que la volonté est bonne, les discussions sont bonnes et tout, mais si on y va simplement dans la statistique, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre de chauffeurs, est-ce qu'on peut vraiment augmenter l'offre de service ou c'est une volonté, mais on ne sera pas capable de la faire sur le terrain?
Bien, on a la volonté, puis on va le faire.
OK.
On n'a pas vraiment le choix. On va trouver les moyens. Alors, okay. C'est pour ça que c'est pas on connaît les enjeux. Oui, il peut y avoir des enjeux de main-d'œuvre, mais là, en ce moment, là, on a, ça a été dit là, dans les médias, on a des autobus qui roulent à vide. Alors, on a des autobus confortables, on a des chauffeurs, donc on a toutes les ressources nécessaires.
La
on a
place
les
voies réservées,
okay. Mais il n'y a personne dedans. Alors, il va falloir que les gens prennent ces moyens. Pardon, ces moyens de transport-là, parce que sinon, ben, ce sera du temps perdu dans le tunnel, inutile. Puis peut-être que ceux qui, tu sais, les voitures solo, là, l'auto, on parle beaucoup de l'auto solo, ben peut-être que là, on va convaincre des gens de délaisser l'auto solo pour aller dans le transport collectif. Mais on va mettre en place des moyens de communication importants pour amener les gens dans ces moyens de transport qui sont devenus là essentiels et qui dans le contexte sont très 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 importants et qui vont permettre aux gens de venir travailler dans l'Est, parce que c'est vrai, ouais, que c'est souvent une question de travail, c'est une question d'études aussi. Alors, il faut maintenir cette mobilité, il faut l'améliorer, puis on sait que ce sera pas drôle, là. Ce sera pas drôle pour personne, mais peut-être que les solutions qu'on va mettre en place pourront être tellement efficaces qu'elles vont perdurer et devenir permanente.
Donc, la fermeture de quelques voies du pont-tunnel, peut-être même un projet environnementaliste, Mme Rouleau, c'est une bonne nouvelle que vous me dites ce matin.
Je pense qu'il faut regarder les choses sous tous les angles.
Ben oui, vous avez bien raison.
En espérant
que ça encourage des gens à se tourner vers le transport en commun. C'est pas drôle comme vous le dites, mais bon. On prendra les alternatives, puis on verra si ce sera efficace. Vous avez jusqu'au mois de novembre quand même pour les mettre en place. On se reparlera sûrement d'ici là. Madame Rouleau, Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport, ministre responsable de la métropole de la région de Montréal, merci d'avoir été des nôtres.
Bien, ça a été un plaisir. Je vous remercie beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée.
Alexandre Moranville-Ouellet. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Tout en débattant des enjeux de société.
L'Omnium Banque Nationale commence aujourd'hui à Montréal, un beau tournoi de tennis, mais on a malheureusement déjà une mauvaise nouvelle, Mathieu Boulay, journaliste sportif, Journal de Montréal, Journal de Québec, mauvaise nouvelle, puis toute une quand même.
Oui, Alex, toute une nouvelle ce matin, comme quoi que Rafael Nadal a décidé de se retirer du tournoi de l'Omnium Banque Nationale pour en raison d'une blessure à l'abdomen, mais c'est une blessure qu'il a subi à Wimbledon lors de son match éreintant de quart de finale. Et là, il y avait une micro-déchirure à environ de 7 mm. Et là, il croyait à l'époque qu'à ce moment-là, qu'il y aurait 3-4 semaines de repos, léger entraînement, il aurait peut-être capable de récupérer pour le 3 de Montréal. Mais c'est pas le cas. Hier, il s'est entraîné, puis là, il a fait un mouvement, et là, il a senti une douleur à la cage thoracique. Alors là, on appelle ça il doit revenir un petit peu en arrière au niveau de sa réhabilitation. Puis là, ben, ça veut dire, est-ce qu'il va aller à Cincinnati au lieu de Montréal? C'est possible. Mais là, lui, l'important, c'est qu'il veut jouer le US Open à la fin du mois d'août, début septembre. Donc, il veut mettre toutes les chances de son côté pour gagner un autre grand chelem. Mais c'est une terrible nouvelle pour le tournoi de Montréal, même si on a 40 ou 41 meilleurs, des 44 meilleurs joueurs au monde, ça reste que Nadal est une attraction très forte dans ce tournoi-là parce qu'il y a un capital sympathie et il y a une histoire d'amour entre Nadal et les amateurs de Montréal et du Québec. Donc, c'est très, très dommage pour Eugène Lapierre et son équipe. Mais malgré tout, je pense qu'il y a quand même d'autres bons joueurs et ils vont être capables d'animer la fête sur le terrain.
Ouais, ben parle-moi donc de ces joueurs-là. C'est qui est le plus à surveiller selon toi là avec le tournoi qui commence aujourd'hui? On a quand même, comme tu le dis là, des grosses pointures outre Nadal qui sont là.
Ben je te dirais Daniil Medvedev qui est le meilleur joueur au monde. Là, lui, il a pas participé au tournoi du Grand Chelem là. Il est présentement à Los Cabos au même tournoi que Félix Auger-Aliassime. C'est le meilleur joueur au monde. Il est champion en titre à Montréal au tournoi du Canada, au tournoi canadien. Alors, je pense que lui est un des favoris. Mais dans le top 10 mondial, tu as quand même beaucoup de grosses pointures qui vont être là. Tu sais, Félix Auger-Aliassime, tu as Casper Ruud, le Norvégien, qui est un gars redoutable là, depuis le début de la saison. Ensuite de ça, tu as plusieurs joueurs que moi, je pense. Un gars comme Nick Kyrgios, qui est un gars très flamboyant. Que s'il se présente puis il se concentre sur le tournoi en tant que tel et non pas sur qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du terrain, ben il y a des chances de gagner le tournoi. Mais tu sais, t'as Félix Auger-Aliassime, t'as Denis Shapovalov, t'as Matteo Berrettini, on l'a pas vu à Wimbledon parce qu'il y a eu la COVID-19, mais Berrettini est un adversaire redoutable aussi. Je te dis, veux pas, les amateurs vont avoir en masse. Même j'oublie aussi Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, c'est des gars qui ont vraiment beaucoup de talent, beaucoup d'ambition aussi pour Montréal. Puis là, ben avec Nadal qui part, ben là il y a un 1000 points qui devient peut-être plus accessible pour ces joueurs-là. Moi je te dis Alex, malgré le retrait de Djokovic pour son statut vaccinal et le retrait de Nadal en raison de sa blessure, je pense que les amateurs vont avoir pour leur argent sur le quand ils vont aller assister à des matchs là, au cours des prochains jours.
Non, ça va être il y a du gros monde quand même, puis c'est vrai. Ouais. C'est bien de rappeler que Novak Djokovic comme on l'appelait au moment de sa controverse en Australie, mais il sera pas là non plus. Hein. Il n'y a pas son vaccin, il vient pas faire un petit tour au Québec. C'est des petits détails comme ça qu'on oublie, hein, même si la pandémie semble parfois derrière nous. Parlons hockey, ouais. Mathieu. Ensemble, il n'y a pas de niaisage hein, chez les Flames en ce moment. Là, ils veulent stopper l'hémorragie à tout prix de leurs meilleurs joueurs. Et là, Jonathan Huberdeau, qui leur a été échangé, signe tout un contrat.
Oui, contrat de 8 ans et de 10,5 millions de dollars par année pour Jonathan Huberdeau. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui se préparait sur le feu, Alex, parce que en fin de semaine dernière, le directeur général des Flames de Calgary, Brad Tyrrelling, était en ville pour rencontrer mano to mano Jonathan Huberdeau. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est mangé dans ce repas-là. Sûrement des petits canapés, un petit verre de vin, un petit T-bone. Mais la discussion a l'air d'avoir été très fructueuse. Parce que je suis pas mal sûr que Tyrrelling est venu à Montréal pour chanter un peu la pomme à Huberdeau et dire « Hey, regarde, tu t'es fait jouer un tour pour la prolongation de contrat avec les Panthers, mais nous autres, on est sérieux et on est prêt à t'offrir un gros contrat. » Bizarrement, c'est le même contrat, quasiment identique à celui qui a été offert à Johnny Gaudreau en juillet dernier. Je ne sais pas s'il y a une coïncidence ou pas, mais c'est pratiquement le même montant, le même nombre d'années. Mais la seule affaire, c'est que Johnny Gaudreau a levé le nez sur cette offre-là, alors que Jonathan Huberdeau, lui, en fier québécois, a décidé d'accepter l'offre et d'être le joueur de concession à Calgary pour les prochaines années. Mais malgré tout, je te dirais que Jonathan Huberdeau a toute une mission. Parce que là, lors des premières années de sa carrière, il jouait en Floride, loin des médias, loin de l'attention des amateurs. À Calgary, ça va être différent. Beaucoup plus de pression sur les épaules parce que, veux pas, Calgary, malgré que c'est un petit marché, c'est un marché quand même de hockey. Les gens connaissent le hockey, les gens sont intenses. Pas comme à Montréal, pas comme à Toronto, mais quand même, la passion du hockey est vraiment coule dans les veines des amateurs albertains. Comme on le voit aussi avec les Oilers d'Edmonton, il y a beaucoup de grogne à l'Alberta là avec les Oilers d'Edmonton, et la rivalité naturelle avec Edmonton fait que Tyrrelling, le directeur général des Flames, n'avait pas le choix de s'assurer des services de Huberdeau pour une longue période, parce que veut pas Les gens regardent beaucoup ce qui se passe à Edmonton quand ils sont en Calgary, puis vice-versa. Donc là, avec Huberdeau en sous-contrat, les Flames peuvent pousser un soupir de soulagement pour les prochaines années. Puis on va espérer que Huberdeau produise à la hauteur de sa dernière saison. Comme ça, tout le monde va être heureux. Huberdeau, les Flames et Trevelyan qui va dire « Bon, j'ai investi mon argent au bon endroit ».
Sinon, aussi rapidement en terminant, Mathieu, Hockey Canada, les fédérations provinciales ont finalement mis leur pied à terre, puis ça doit te réjouir quand même.
Ah ben, je veux pas dire que je faisais la danse de la pluie dans mon sous-sol, mais je dois dire, par exemple, j'étais vraiment content de voir le communiqué d'Hockey Québec comme quoi que les fédérations provinciales ont décidé de s'unir ensemble puis de demander une rencontre extraordinaire avec Hockey Canada. Afin d'avoir de faire la lumière sur qu'est-ce qui s'est passé en 2018 avec Équipe Canada Junior. Et là, les fédérations provinciales veulent que Hockey Canada rende des comptes. Et là, ils veulent aussi un rapport écrit, solide, béton, de qu'est-ce qui se passe au niveau organisationnel, au niveau avant de déposer leur premier chèque. Les fédérations doivent envoyer un chèque avant le 1er décembre avec les cotisations qu'ils ont ramassées au niveau de leur association. Et là, les fédérations provinciales ont dit, bon, avant d'envoyer notre premier chèque qui est dû pour le 1er décembre, on veut un rapport établi qui va avoir sûrement lieu autour du mois de novembre et un autre rapport écrit très, très détaillé avant le 31 mars. Et là, hier, en plus, Hockey Canada a nommé Thomas Cornwell, qui est un ancien juge de la Cour suprême, pour faire la révision des structures organisationnelles de Hockey Canada et les processus et les méthodes de fonctionnement au sein de l'organisation. Alors là, il y a beaucoup de choses qui sont en marche, qui ont été mises en place rapidement. On est en plein d'été, mais tu vois que là, Hockey Canada, ils veulent avoir leurs subventions, ils veulent récupérer les commanditaires. L'heure tourne là, pour Hockey Canada parce que la prochaine saison est à nos portes. Donc, on voit que le scandale de Hockey Canada Junior a sorti beaucoup de monde de leurs vacances, puis c'est une très bonne affaire. Et là, les dirigeants d'Hockey Canada doivent rendre des comptes, et il est à peu près temps. Et encore une fois, je ne comprends pas pourquoi que le Scott Smith, qui a remplacé Tom Rainey à la tête d'Hockey Canada, est encore en poste. Avec tout ce qu'on connaît maintenant, il y a tous les motifs pour quitter. Les fédérations, est-ce que les fédérations provinciales vont mettre la pression pour qu'ils partent Scott Smith? Je ne sais pas. Mais d'après moi, la pression, elle doit être très, très forte dans les hautes instances d'Hockey Canada pour que Scott Smith décide de quitter son poste qu'il le démissionne, comme on peut dire dans le langage.
Ouais, on verra si les fédérations, comme tu le dis, là, ça peut être intéressant de les voir mettre cette pression-là, justement, pour qu'ils partent. Ça sera peut-être dans leur revendication, ouais. Ou du moins si le rapport n'est pas assez béton comme ils veulent. Mathieu Boulay, merci d'avoir été là. Je te souhaite une bonne fin de semaine, du bon tennis aussi. Merci. On se reparle lundi.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Alexandre Morinville-Ouellette. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets.
Cube Radio.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Je suis avec Julia Pagé et Rémi Villemur avec moi. La nouvelle du jour, grande nouvelle, hein, c'est des détails qu'on va apprendre au compte-gouttes aujourd'hui, mais surtout dans les prochains jours, les prochaines semaines, sur ce tireur, hein, tueur en série, c'est le terme qu'on a utilisé pour le qualifier après ces trois meurtres gratuits qu'il a commis, Abdullah Shaikh, 26 ans, dont on apprend qu'il avait été suivi par la commission d'examen des troubles mentaux et finalement décidé d'être remis en liberté malgré malgré le fait qu'il posait un risque élevé pour la société. Et ça nous fait poser des questions. Il y a même José Rioux, la présidente de l'Ordre professionnel des criminologues du Québec, qui estime que le système actuel ne suffit pas pour être capable de capter toutes ces personnes-là pour qu'elles ne tombent pas au travers des mailles du filet. Comment on est censé, Rémi, s'occuper de la santé mentale des délinquants comme ça quand on est incapable, règle générale, même de prendre soin efficacement de celle des citoyens en général?
Ben, ça prend de l'argent, ça prend des ressources. Puis je pense aussi qu'il faut arrêter, comme société, de s'imaginer qu'on peut sauver tout le monde. Dans la mesure où les inégalités, ça fait partie de la vie, il faut bien sûr mobiliser des énergies pour lutter contre les inégalités, il faut les réduire à leur plus simple expression. Mais on se demande, quand ça arrive des affaires comme ça, quelle est la priorité des institutions de santé mentale? Quelle est la priorité du système de justice? Est-ce que c'est de protéger la société ou c'est de protéger, par exemple, la dignité d'un individu qui a des problèmes, de protéger la possibilité que cet individu-là de vivre une vie dite normale? Moi, je me pose la question parce que la personne a été libérée alors qu'elle, et là je cite, constituait un risque pour la société. Donc, on s'est dit, cette personne-là est dangereuse, elle prend pas ses médicaments, elle a pervers narcissique, schizophrène, quelqu'un qui a été, qui a déjà battu, je pense, sa copine, quelqu'un qui s'est rendu à l'aéroport, qui a brûlé son passeport. Donc, on parle d'un individu malade, OK? Et là, on le libère, et là, on apprend que la personne, en toute apparence, puisque c'est encore un suspect là, au nom de la loi, mais a tiré sur trois personnes à bout portant, des innocents, modus operandi, une balle dans la tête, un jeune de 20 ans qui était en train de faire du skateboard. Donc, ça, moi, ça m'a rappelé, en fait, la fois où il y avait eu le monsieur qui était en prison pour avoir tué, je pense, une femme qui avait été libérée, et on lui avait dit va vers des
travailleuses du sexe. Galicée, oui.
Ouais, va vers des travailleuses du sexe, c'est plus sécuritaire. 48 heures après sa libération, il assassinait froidement une travailleuse du sexe. Qu'est-ce qu'on s'était demandé comme société à ce moment-là? Est-ce que c'est l'intérêt, c'est de protéger la société ou c'est de protéger la dignité de l'individu?
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Julia?
Ben, ce que certains disent, c'est effectivement pourquoi on l'a libéré sous condition alors qu'on soupçonnait qu'il pouvait avoir des comportements très violents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la règle de droit veut que quand on n'est pas encore reconnu coupable, on ne peut pas être détenu à moins que la défense puisse prouver qu'on est un danger pour la société. Mais les critères sont excessivement exigeants pour le prouver. En gros, il faut qu'il y ait un crime par arme à feu ou une récidive, mais ce n'était pas le cas ici. Donc, dans ce genre de cas tragique, on aurait pu souhaiter que les critères soient moins exigeants et que Abdullah Shaikh puisse être détenu en raison de ses troubles de santé mentale en attendant son procès. Ça aurait évité 3 morts. Mais, malheureusement, comme dans la vie, hein, c'est pas aussi simple que ça parce que des critères de détention moins exigeants, ça veut aussi dire qu'on ouvre la porte à plus de détention de personnes innocentes. Et ça, ben, dans une démocratie, c'est juste pas possible. Donc, on est un peu dans une impasse qui résulte, entre autres, de notre difficulté à adresser les problèmes de santé mentale dans toutes les sphères de la justice. Il n'y en a pas de solution simple à ce problème-là parce que, comme je disais, on peut pas juste détenir tous ceux dont le trouble mental aurait des chances de résulter à un acte criminel. Mais en même temps, si le système de justice laisse en liberté des gens capables de meurtre, on n'est pas plus avancé. C'est clairement une question pour les juristes, pour les criminologues, beaucoup trop compliquée pour mon petit cerveau d'étudiante en sciences politiques. Mais comme on l'a vu, chaque décision peut avoir des impacts majeurs.
Ouais, des impacts majeurs. Puis c'est pas, mais c'est pas la première fois aussi. Là, on a parlé beaucoup là du système de justice. Hein. Il y a encore une fois là ce segment du sondage léger hein, qui donne suite à celui qui a été fait sur les, entre autres, là, sur les élections, mais qui parle des Québécois, 40%. Qui n'ont pas confiance en le système de justice. C'est une statistique importante. C'est pas la première fois que ça arrive, mais on dirait tous les jours, il y a une nouvelle là-dessus. Hier, c'était un homme qui a tenté d'étouffer sa conjointe, l'a battu. Puis si leur fille, leur jeune adolescente, n'avait pas appelé la police, sa mère serait peut-être morte. Et l'homme a obtenu une absolution conditionnelle. Encore, là, c'est complètement fou. Puis tout ça pour que monsieur puisse voyager, ne perde pas son emploi. Là, le DPCP, hier, a annoncé qu'ils allaient pousser ça en appel. C'est un autre cas. C'est un autre cas de figure. Puis après ça, est-ce qu'on est en droit de se demander si notre système de justice n'est pas justement trop défaillant? Il n'y a pas trop de cracks. C'est normal qu'il y en ait qui passent, là, mais est-ce qu'on peut se dire que le système est peut-être trop défaillant en ce moment, hein, Rémi?
Je sais pas. Moi, je me méfie quand même des... des jugements généraux sur le système de justice. Je pense que je l'ai déjà dit ici, la justice s'occupe du particulier, elle ne s'occupe pas du général. Et dans le cas dans ce cas particulier-là, je me demande, je le répète, est-ce qu'on a voulu protéger les victimes potentielles ou on a voulu protéger l'individu? Et c'est souvent le sentiment, pour faire suite à ce que tu dis, qui nous habite. Par exemple, est-ce qu'on veut protéger quelqu'un qui a déjà été condamné, qui a déjà été accusé auparavant pour de la violence conjugale, ou on veut protéger la victime? C'est sûr que le système de justice, comme vient de le dire Julia, ne permet pas qu'on détienne quelqu'un sous certaines conditions. Mais là, à un moment donné, les cas s'accumulent beaucoup. Durant la COVID, on s'en est rendu compte. Là, la santé mentale au Québec, on dirait qu'elle en a pris une maudite claque. Là. Et ça devient de plus en plus problématique. Et des gens comme moi qui ont 28 ans puis qui veulent avoir des enfants un jour, moi, je me questionne là, à savoir si je vais élever des enfants dans cette ville-là. Là. Si mon enfant va se promener dans la rue puis se manger une balle dans la tête... Moi, ça se peut que je devienne complètement fou, là.
Ouais. Julia, tantôt, tu parlais des peines. Est-ce qu'on peut s'exposer à ce qu'il y a plus d'innocents, qu'il y a plus de peines sévères? Les peines sévères, selon, encore une fois, là, je vais citer le sondage léger, il y a au-dessus de 60 % des gens, des répondants du sondage, qui trouvent que les peines ne sont pas assez élevées en ce moment. Aussi, est-ce qu'il n'y a peut-être pas une volonté de punir plus sévèrement, même dans notre système de justice, les contrevenants?
Il faut juste vraiment être très clair avec nous-mêmes sur le but du système de justice puis du système pénal. Puis notre but, c'est de s'assurer que ces gens-là soient hors de portée de nuire et qu'ils soient complètement éliminés de la société, c'est une chose. Mais si on veut espérer les réinsérer et possiblement comprendre les motifs de leurs crimes, qui ne sont pas toujours très compréhensibles, mais qui souvent résultent de contextes sociaux, de contextes culturels, la violence engendre la violence, on l'a souvent dit. Donc, si on a une logique de réinsertion sociale, il faut absolument accepter que les prisons et le système de justice servent à ramener les gens en société et pas juste à punir. Sinon, tant qu'à y être, on ramène la peine de mort si on pousse cette idée à l'extrême. Il faut juste vraiment être très conscient du but du système de justice et le système de justice ne peut absolument pas se permettre de condamner des innocents. Sinon, ça pourrait être vraiment grave. Donc, il y a les deux côtés de l'affaire qui font que dans un cas comme dans l'autre, il va y avoir des cas perdus, il va y avoir des choses qui vont passer entre les mains du filet. C'est crève-cœur parce qu'il n'y en a pas de solution parfaite, puis on ne peut jamais tout couvrir.
À la lumière de tout ça, Rémi, je pose une question, je pense que j'ai déjà posée, mais moi, on dirait qu'il devient de plus en plus une évidence. Là. La CAQ, selon toute vraisemblance, va avoir un énorme bassin de candidats très qualifiés, vont même avoir de la misère à se trouver des ministres. Est-ce qu'on pourrait avoir un ministre de la justice qui s'occupe que de la justice et that's it, au lieu de Simon-Jean Barrette qui a genre 18 chapeaux?
Ben oui, mais je pense que ça s'en vient. Là. Je pense que, bizarrement, on n'a pas suffisamment posé cette question-là durant le premier mandat. On n'en a pas suffisamment parlé. Jean Boulet, qui a, je pense, 3 ou 4 ministères aussi. Il va falloir qu'on comprenne que c'est un ministère qui est suffisamment exigeant, qui présente suffisamment de défis pour une seule personne.
Qu'est-ce que t'en penses, Julia?
Ouais, c'est... En fait, quand on dit ça à peu près n'importe qui, ça nous apparaît comme une évidence. Le système de justice, c'est tellement gros, c'est tellement pesant comme institution que c'est absurde de ne pas s'imaginer qu'il y a un ministre qui soit attitré seulement à ça. Puis c'est pas comme si les autres fonctions de M. Jolin Barrette étaient des petites affaires comme ça, pas trop graves, qui prennent une journée par semaine. Là. Donc, je peux pas vraiment croire que ce soit pas déjà le cas. J'espère que M. Legault va répondre à cette question-là.
C'est une question vraiment qu'il faut se poser. Ça sur les peines, ça sur le système de justice, parce que je trouve que ça en fait beaucoup là, des cas qu'on échappe comme ça, les uns après les autres, et qui malheureusement le résultent dans ce cas-ci avec des décès de personnes innocentes. Rémi, Julia, c'est une discussion qu'il faudra poursuivre, de toute évidence, parce que surtout tenter de le faire passer ce message-là. Est-ce qu'avec les élections, on ne pourrait pas avoir seulement un ou une ministre de la justice uniquement? Je pense qu'on aimerait avoir des réponses. Merci à vous deux. On se reparle lundi.
Alexandre Moranville-Ouellet. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Tout en débattant des enjeux de société.
Il y a une nouvelle qui nous est pas vraiment parvenue ici au Québec à date. Une drôle de nouvelle qu'on verrait habituellement ici plutôt dans le Saint-Laurent. Hein? On a eu dans les dernières années, là, plusieurs baleines, des cétacés qui sont remontés dans le Saint-Laurent, dans le fleuve. Et malheureusement, il y en a quelques-unes qui sont décédées, d'autres qui ont survécu puis qui ont pu remonter parce que l'eau douce, c'est pas fait pour ce genre d'animaux, pour ces genres d'animaux-là. Et là, par contre, c'est une nouvelle qui nous parvient, qui est presque similaire qu'on aurait pu lire dans le Saint-Laurent ici à Montréal, mais qui nous parvient de France. Il y a une baleine, un animal qui était localisé à environ 70 km de Paris, dans la Seine, et pas n'importe quel animal marin. C'est un beluga, un animal qu'on retrouve habituellement, mais vraiment pas en France, vraiment pas dans un fleuve comme la Seine. Pour en parler avec nous, Robert Michaud, président et directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM. Bonjour, Monsieur Michaud.
Bien le bonjour.
Tout d'abord, qu'est-ce que ça fait là, un beluga, en France?
Il est perdu, il est très loin de chez lui.
Il est perdu, il est très loin de chez lui. Est-ce que c'est un phénomène rarissime? Habituellement, on dit que, par exemple, il y a deux petits rorquals qui se sont perdus ici à Montréal, une baleine à bosse aussi, c'est arrivé dans les dernières années. Souvent, vous m'en avez déjà parlé ici, même les jeunes, souvent, peuvent se perdre, être aventureux et autres. Mais là, c'est parce que on parle d'eau arctique, subarctique, Saint-Laurent d'habitude. Oui. Comment ça se fait qu'il rentre en France?
Bon, pourquoi? Ben, on n'a que des hypothèses, évidemment. Dans ce cas-ci, c'est un adulte, vraisemblablement. C'est pas une première. C'est des choses qui arrivent. C'est pas fréquent, mais c'est régulier que des animaux, à peu près de chez toutes les espèces, s'éloignent, perdent leur chemin et se retrouvent dans des endroits vraiment inappropriés. Mais c'est tout à fait le cas pour ce beluga-là, qui, selon les plus grandes probabilités, elle pourrait appartenir à une population comme celle de Svalbard, qui est un peu au nord de la Norvège, ou peut-être même de la mer Blanche en Russie, sur le côté de la Finlande, par exemple. Alors, cet animal-là se serait vraisemblablement perdu. Pourquoi? Est-ce que c'est un animal qui était malade, dont la santé était déjà compromise? Est-ce que c'est un aventurier? Est-ce qu'il a fait, comme nous, quand on se perd dans le bois, une série d'erreurs? Alors, malheureusement, on n'a jamais la réponse à ces questions-là. On a des hypothèses comme celle-là. Mais si on pense au beluga en Europe, effectivement, ça fait étrange. Mais si on fouille dans les annales, il n'y a pas très longtemps, il y a un beluga qui est passé quelques mois dans la Tamise, qui est remonté jusqu'à Londres. Là, c'est il n'y a pas longtemps, là, on est en septembre 2018. Et l'animal était parti par lui-même au début de l'année 2019. Si on revient encore plus loin dans le temps, dans le Rhin, en Allemagne, un beluga était en 1966. Un beluga a remonté, a passé beaucoup de temps. Et comme pour le beluga de la Seine, il y a eu quelques tentatives là, pour dérouter l'animal. L'animal se déjouait des bateaux, remontait plus loin que les bateaux voulaient le laisser passer. Et cet animal-là, vraisemblablement, se serait sorti de cette fâcheuse situation par lui-même. Si on vient ici en Amérique, ben nous, on a géré quelques cas de beluga dans des rivières, dans la rivière Delaware, à Philadelphie, au début des années 90. J'avais reçu un téléphone d'un journaliste qui m'envoie une photo d'un beluga sous un pont, juste avant d'arriver dans Philadelphie. Puis c'est un beluga du Saint-Laurent, c'était Ellis, un gros mâle qu'on connaissait bien. Et il s'est vraisemblablement sorti de là par lui-même. Puis là, si on continue l'analyse des cas, là, il y a des cas
plus
malheureux.
Il y en a beaucoup, oui.
Il y en a, puis il y en a chez toutes les espèces. C'est impressionnant. C'est un phénomène qu'on pourrait appeler un phénomène naturel qui est malheureux. Et nos choix d'intervention sont limités et sont difficiles. Ouais. Je vous avoue que j'aimerais pas me mettre dans la peau des équipes qui sont là. J'ai fait leur travail à quelques reprises. C'est difficile, c'est déchirant. Ils vont analyser toutes sortes d'options. Il va y avoir beaucoup de pression du public. En bout de compte, la bonne réponse, elle n'est pas déjà écrite dans le grand livre.
Ouais.
Alors, j'ai beaucoup de sympathie pour eux présentement, beaucoup pour notre beluga, qui est le beluga qui est là-bas, qu'on ne sait pas à quelle population il appartient. Mais
ça ne peut pas être un beluga du Saint-Laurent. Ça ne peut pas être un beluga d'ici.
Honnêtement, je ne peux pas vous dire ça.
Ça se pourrait qu'il y en ait un qui a traversé l'Atlantique, par exemple.
Je n'y crois pas.
Okay.
Je n'y crois pas, mais j'oserais pas dire ça ne se peut pas, parce que la nature nous fait des surprises des fois. Gardons un peu d'humilité. C'est pas nous qui appelons tous les coups dans ce grand jeu-là. Alors là, c'est un animal qui est perdu, qui est en mauvaise situation. les collègues européens sont mobilisés présentement pour évaluer leurs options. Il y a des options qui, moi, me semblent moins intéressantes. Il y a des gens qui ont parlé de le nourrir. Je pense que le nourrir, c'est le condamner à moyen terme. C'est pas une bonne idée. Le capturer, le transporter, c'est difficile. Il y a des risques, mais l'issue, après ça, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui arrive? Quand ça a été fait, ça n'a pas toujours été heureux. Il y en a qui disent qu'il n'y en aura pas de facile. Dans un cas comme ça, c'est effectivement la situation. C'est pas simple.
Vous parlez de nourriture.
C'est un phénomène naturel.
Vous parlez de nourriture, M. Michaud. Question rapide. Vous parlez de nourriture. Vous avez parlé d'autres belugas qui ont survécu quand même assez longtemps dans des estuaires comme ça, dans des fleuves, puis qui ont pu en ressortir. Est-ce qu'un beluga peut trouver de la nourriture, par exemple, dans un fleuve comme la Seine?
Ben, je l'ignore en réalité, mais je croirais que oui, si l'animal est motivé, s'il est en bonne condition, j'imagine qu'il pourrait en trouver. Est-ce qu'il y a une raison qui a motivé cette situation-là qui fait en sorte que l'animal avait déjà une santé compromise, et même s'il y avait de la nourriture, il ne se nourrirait pas? Je l'ignore. On a eu 3 jeunes bélugas qui sont montés dans la rivière Saint-Paul sur la basse côte nord, tout près de Blanc-Sablon, il y a quelques années. Il y en a 2 qui sont morts d'inanition. Ils étaient dans une rivière à saumon. En principe, en fait, les pêcheurs craignaient que les bélugas vident la rivière de tout le saumon. En principe, il y avait la nourriture là, mais est-ce que dans cet environnement-là, ils ne sont pas capables de la chasser? Les bélugas doivent travailler pour se nourrir. C'est pas toujours facile attraper la nourriture. Puis dans cette situation-là, c'est peut-être plus difficile. Alors évidemment, on a beaucoup plus de questions que de réponses. Beaucoup de sympathie pour les belugas et l'équipe qui s'en occupe présentement.
Vous parlez de l'équipe qui s'en occupe. Allez-vous, en terminant, là, M. Michaud, allez-vous proposer vos conseils, votre aide, si eux... parce que vous avez plus d'expérience quand même, je pense, avec les belugas, peut-être que vos collègues français. Allez-vous offrir votre aide?
On n'a pas été contactés. Évidemment, si on l'était, on allait parler avec nos collègues, mais les collègues qui s'occupent de ça appartiennent au même regroupement que nous, et on s'échange nos trucs, on publie nos trucs. Alors, ils savent bien ce qu'on a fait ici. On a eu des rencontres avec les regroupements européens encore l'automne dernier. Alors, c'est une petite communauté, hein, les gardiens des baleines, entre guillemets. Alors, on connaît bien nos trucs, ils sont bien échangés, mais si évidemment, s'il y avait un téléphone, on répondrait comme d'habitude.
Robert Michaud, président et directeur scientifique du GREM, groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Merci de nous avoir donné vos lumières.
Ça fait plaisir. Bonne journée à vous.
Bonne journée. C'est qui conclut notre émission, en espérant que ce petit beluga puisse retrouver le chemin de la maison, surtout si cette maison-là est au Québec, c'est assez loin. Merci. Merci à l'équipe également qui est avec moi aujourd'hui, toute la semaine, Jean-François Roy, à la console. On a également Florence Lamoureux à la recherche. Je vous remercie. On se reparle lundi prochain.
Cube Radio.